France Inter. .fr.
Ah non, c'est dégoûtant.
C'est une merde comme le film l'indique d'ailleurs. Hein. Le film est vraiment une merde. Hein.
Dégueulasse.
Et vous, monsieur?
C'est dégueulasse, monsieur.
Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. Una are two.
Say it again.
Una are two. We're gonna be fine. Now, go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Je déclare ouvert le premier festival de l'agriculture. Voilà comment le plus grand festival de cinéma du monde s'est ouvert en 1946 sur une bourre d'un ratage. Cannes, 70 ans d'existence cette année. Toute une histoire faite de grands films et de découvertes. Certes, mais aussi de scandales et de controverses. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Non, le Festival de Cannes ne redoute pas les polémiques, mais au contraire s'en nourrit pour mieux exister. Elles ont ponctué son histoire, des films sifflés, hués, des palmarès controversés, de Fellini à Gaspard Noé, mais aussi Ferreri, Bresson, Antonioni, Piala ou Dumont. Tout cela donne lieu à une rétro à la Cinémathèque du 26 avril au 28 mai. Pour commenter cette histoire mouvementée, deux invités. Bonjour Pierre-Henri Delot.
Bonjour.
Délégué général pendant 30 ans, à partir de 69, de la quinzaine des réalisateurs nés d'une révolution, celle de 1968. Et bienvenue Jean-Pierre Lavoignat.
Bonjour.
Journaliste de cinéma et cofondateur de Studio Magazine, Cannes, dont vous foulez la croisette chaque mois de mai. Depuis presque 40 ans, mon Dieu, comme le temps passe. Après ce voyage dans le temps, un stop sur les sorties de cette nouvelle semaine de cinéma, bulgare, israélien, polonais, sud-africain et français, et pas forcément la meilleure de l'année. Pierre-Henri Delot, Jean-Pierre Lavoignat, vous reconnaissez cette mélodie ou pas?
Moi je la reconnais, mais je n'ai aucune mémoire musicale, donc je ne saurais pas dire ce que c'est, mais je sais que je la connais.
Elle est...
Je ne la reconnais pas.
Elle est signée Jean Constantin.
Un indice, 400.
C'est un film réalisé par un garçon dont les initiales étaient F et T.
François Truffaut.
Oui.
Bravo Jean-Pierre Lavoignat, bravo. Les 400 coups.
C'est la musique des 400 coups, voilà. Pris la mise en scène en 59, deux ans après la polémique qu'il a créée. Aurait-il réveillé le Festival de Cannes en 57, François Truffaut, alors que celui-ci avait atteint sa vitesse de croisière dans les années 50? Il attaque les sélectionneurs et le 20 avril 57, il publie dans Les Arts. Que sera le Festival de Cannes? 5 académiciens dans un jury où la littérature dominera, et plus tard en mai, il dira le cinéma français crève sous de fausses légendes. En fait, il a... Finalement, Truffaut marquait l'arrivée d'un élément central à Cannes, c'est la critique, Jean-Pierre Lavoignat.
Oui, mais elle y était déjà depuis plusieurs années quand
certes.
Même. Mais c'est vrai que cette année-là, le palmarès a été extrêmement contesté. Et pourtant, quand on regarde bien, il n'est pas si contestable que ça. C'est-à-dire que la Palme d'Or est effectivement très académique. C'est la loi du Seigneur de Wilhelm Weiler.
Ouais.
En plus, le jury était composé d'au moins 5 ou 6 académiciens.
André Mauroy, Pagnol, Genevoix et Jules Romain.
Voilà. Mais il y avait Cocteau, président d'honneur.
Oui.
Et moi qui adore Cocteau, je lui prête peut-être trop de choses, mais on ne prête qu'aux riches. Quand on regarde le palmarès avec attention, il y a quand même deux prix spéciaux ex aequo du jury. Canal de Vajda et le 7e saut de Bergman.
Oui.
Plus le meilleur metteur en scène, Bresson, pour Un condamné à mort. Et un prix d'interprétation pour Julieta Massina,
ouais,
dans Les Nuits de Cabrières.
C'est pas mal.
Donc, finalement, c'est pas si mal. Mais c'est vrai que ce palmarès a été critiqué, mais alors partout. Partout, on dit que c'est un palmarès archéologique, un palmarès honteux, un palmarès diplomatique. Si bien que Truffaut s'est déchaîné lui aussi là-dessus. Et si bien que c'est quasiment unique, je crois, dans les annales de Cannes, c'est qu'il a été interdit de festival l'année suivante.
Oui.
Et que joli coup du destin ou du sort ou de ce qu'on veut, deux ans après, il est revenu avec les 400 coups et a gagné le prix de la mise en scène.
Pierre-Henri Delot, pendant longtemps, les films ont été choisis en fonction de leur nationalité, de pays représentés. Et c'est ça ce que Truffaut signale, c'est que le cinéma, ce sont des auteurs. Même vocation pour la quinzaine des réalisateurs.
Oui, parce que c'était les pays qui désignaient.
Oui.
Donc on disait l'URSS présente, donc les Russes et les Soviétiques à l'époque. envoyer des films académiques, Gerasimov, Bondarchuk, mais certainement pas des films georgiens comme Yoseleni. Donc on avait demandé, Albi Coco et Daniel avaient demandé au festival, après les événements de 68, de prendre cette liberté, de dire, comme aujourd'hui on le fait, le festival présente un film de... Et puis, ils ne l'ont pas fait, d'où la création de la quinzaine des réalisateurs.
Après cette révolution de 68, ce festival, non pas annulé, mais interrompu, dont les principaux maîtres d'œuvre de cette révolution cannoise, c'était Truffaut et Godard, on peut le dire. Encore Truffaut.
Encore Truffaut, oui.
Et Claude Berry.
Et Godard beaucoup.
Et Godard beaucoup. Donc vous arrivez, vous êtes le nouvel homme de cette première sélection de la quinzaine. C'est quoi votre ambition à l'époque? Est-ce que vous avez même une ligne de conduite à suivre?
Non, pas du tout. J'avais pas de ligne. L'idée étant de montrer du cinéma vivant, contemporain, qui rendait compte de la réalité des pays dont ils étaient issus. Donc se dire, et puis de rattraper éventuellement le retard. Il y avait déjà eu le début du cinéma nouveau. Et ils n'étaient pas représentés. Donc moi, j'ai montré des Carlos Jegues, Neville d'Almeida, Julio Bressan. Un jeune cinéma japonais, c'était Oshima. Bon, un jeune cinéma allemand qui allait commencer tout de suite après, avec une espèce de nouvelle vague. Donc deux ans plus tard, je vais ramener Herzog, Werner Schroeter et des gens comme ça. Donc, et c'était facile parce que, comme c'était des commissions dans chaque pays ou des ministres, il fut un temps aussi le ministre français envoyait les films à Cannes, ou simplement les repages. Il ne faut pas oublier qu'il y avait en France, par exemple, un producteur qui s'appelait Edmond Tenoudji, qu'on appelait le parrain, ça veut dire beaucoup. Et c'est comme ça qu'il avait envoyé Les Feux de la Chandeleur de Serge Corbet représenter la France à Cannes. Évidemment, ça ne se faisait pas face aux films étrangers. Donc c'est ça, on demandait finalement à la compétition de conquérir sa propre liberté. Et ils ont reculé devant la pression des producteurs.
On va trancher dans le vif tout de suite. Vous avez eu des altercations, des problèmes avec Gilles Jacob pendant ces 30 ans. J'imagine que vous vous êtes volé des films mutuellement, enfin plutôt la compétition officielle que la quinzaine. Est-ce qu'il y a eu des choses que vous n'avalez toujours pas?
Non, c'est pas ça. C'est que au début, quand la quinzaine a commencé, c'était pas Gilles Jacob, c'était Maurice Bessy. Bon, Bessy, au bout de deux ans, a compris qu'il fallait réagir. Donc, il a créé trois sections parallèles, qui étaient le passé composé, les yeux fertiles et un certain regard.
Ouais.
Puis ensuite, il va être viré par Fabre Lebray. Gilles va arriver, va tout ramener dans une seule section, un certain regard.
Ouais.
Moi, je me disais, tout dépend de comment on l'écrit. Moi, je l'écris en deux mots. Ça, évidemment, ça n'arrangeait pas les choses. Bon. Et l'idée, le coup de génie après de Gilles a été de baptiser ça sélection officielle. Bon. Donc, il y a des gens, la première année, qui sont arrivés croyant qu'ils étaient en compétition. Ils découvraient que non, ils montaient le tapis rouge peut-être. Mais arrivés en haut des marches, ils tournaient à droite, ils allaient à Debussy, ils n'allaient pas à Lumière. Alors, évidemment, c'était rigolo. Non, c'était la course, effectivement, pour les films. Et Gilles a compris qu'il fallait bouger. Donc, il envoyait des Missi Dominici, son fils en Amérique latine parce qu'il parlait espagnol, Marc Tessier au Japon, Daniel Lehmann en Italie parce qu'il avait un appartement là-bas. Et il ramenait des films. Et voilà. C'est comme ça.
C'est comme ça. Et en fait, l'idée de scandale, elle est presque inhérente à la quinzaine. Je veux dire, il n'y a pas de scandale à la quinzaine.
Non, pas du tout.
C'est ça l'idée, Jean-Pierre Lavoignat.
Bah non, puisque le public de la quinzaine, il est curieux, cinéphile, alors que les scandales qu'il y a au festival officiel, ils sont beaucoup dus au public. On sait que Cannes, c'est pas un festival public. C'est un festival de professionnels.
Ouais.
Mais les soirées de gala, c'est-à-dire toutes les projections officielles le soir...
Il y a quelques places réservées aux Cannois.
Non, mais il y a des places réservées aux amis des producteurs, aux Cannois. Et c'est là que naît le scandale, puisque ce sont des gens qui sont pas forcément amateurs ou connaisseurs de cinéma. Alors qu'à la quinzaine, on sait que le public de la quinzaine, au contraire, ce qu'il cherche, c'est quelque chose que, justement, les sélections de la quinzaine lui donnent. Alors que dans le Grand Palais, c'est pas tout à fait ça.
Énorme scandale dans l'histoire de Cannes, 1973, Marco Ferreri, La Grande Bouffe.
C'est un scandale. Un scandale. Ça gagne du pognon, ça. Sur le dos du pauvre populo.
Oui, madame.
Vous avez ainsi une idée des réactions suscitées par La Grande Bouffe. Ce film a réalisé une unanimité aussi totale qu'hostile tant auprès des spectateurs que de la critique, ce qui est tout de même assez rare. Au-delà du style rabelaisien ou pasolinien, il y a l'abject, c'est semble-t-il ce que la plupart des gens auront retenu.
Est-ce que vous étiez là, Pierre-Henri Delos, cette année-là?
Oui, oui.
Et vous rappelez du...
Ah oui, complètement. Je veux dire, je me rappelle surtout que une des membres du jury, sinon la présidente, c'était Ingrid Bergman,
oui.
Et qu'elle était sortie de ses droits de réserve, son imbrication de réserve, pour dire que c'était scandaleux que ce film représentât la France et qu'elle trouvait ça absolument honteux. Même réaction d'ailleurs pour La Maman et la Putain.
Qui était présentée la même année. Ouais.
Qui était présentée la même année.
Et donc, lui a été récompensé quand même.
Et bien justement, on va l'écouter, Ingrid Bergman.
Grand prix spécial d'une majorité de jury. La maman et la putaine de Jean Eustache.
Elle est... était contre. Hein.
Oui, oui.
Elle le dit bien, la majorité.
La majorité,
hein. la majorité on l'entend. Il y a plus de scandales comme ça, Jean-Pierre Lavoignard.
Bah, si. Un peu moins, mais oui, un peu moins.
Les scandales en fait, purement cinématographiques.
En fait, il y a différents types de scandales à Cannes.
Oui.
Il y a les scandales de présentation des films, comme La Grande Bouffe, La Maman et la Putain.
Oui.
Donc ça arrive encore de temps en temps, de manière moins forte, parce que je pense que le cinéma est plus consensuel, que le public de Cannes lui-même a quand même changé, que les époques sont plus les mêmes. Il y a ça, il y a les scandales au palmarès,
ouais,
où on attendait un film et c'est un autre, et c'est pas forcément celui qui a été le plus aimé par les gens et même par la critique. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler les scandales périphériques, genre la fameuse histoire de la starlette et de Robert Mitchum qui pose nu,
ouais,
et lui qui lui cache ses seins en mettant, croyant, la protéger, aggrave son cas en lui mettant les mains sur les seins, ou la fête de Kusturica qui tourne mal et se termine en baston.
Tout ça, c'est du buzz, quoi. Plus que des scandales.
Quand même, un peu. Ouais, c'est pas que du buzz, ça existe réellement.
Oui, ça existe.
Mais bon. Des scandales sur les films eux-mêmes, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins. Mais je dirais irréversible, par exemple, la Minuit, ça a été un peu.
Ouais.
Un peu comme La Grande Bouffe. Moins fort, bien évidemment, mais un peu quand même.
Un autre scandale, Pierre-Henri Delos, que vous vouliez signaler, enfin, à partir d'un film qui s'appelle Les Autres, de Hugo Santiago, je reconnais ne pas...
Nous reconnaissons.
...avoir vu ce film. Il est en compétition officielle et il a déchaîné la critique.
Oui, c'était un film qui était entre autres interprété par Roger Planchon, par Noël Châtelet, qui était à l'époque l'épouse de François Châtelet, et qui...
La sœur de Noël Jospin, il faut le dire.
Oui, la sœur de Noël Jospin. Et qui avait été écrit par Borges et Biel Casares. Ce film avait été pris et désigné par la commission de sélection et moi j'en étais le producteur délégué. Et ce film était tellement classique qu'il était fait comme un opéra. C'est-à-dire qu'il y avait 5 minutes monochrome vert où on allait voir des images qu'on allait retrouver dans le film ou des images du passé des personnages qui devaient l'expliquer comme un motif d'opéra dans une ouverture où on entend ce qui va être joué, développé ou ce qui sera des liaisons. Et donc, ces films, ces 5 premières minutes devaient être joués lumière tamisée, veilleuse allumée seulement. Et ça n'a pas loupé, la première projection dans l'ancien palais. Moi, j'étais là, projection du matin vers 10h pour la presse et les professionnels. J'ai vu un monsieur, les lumières se sont éteintes, mais pas éteintes complètement. Et donc, j'ai vu un monsieur qui descendait fou de rage pendant que les gens hurlaient « Éteignez, éteignez, c'est un scandale !» Je me suis approché du monsieur qui hurlait, il cherchait une hôtesse pour aller dire au projectionniste d'éteindre. Et j'ai reconnu le président du jury du Festival de Cannes, qui était René Clair. Alors je lui ai dit, mais monsieur le président, vous-même avez fait quand même des films un peu modernes, en tant que... Oui, fou de rage il était. Si c'était exprès, il fallait le dire. Bref, le film n'a évidemment pas marché. Et le soir... dans la représentation en pingouin, quoi, si j'ose dire, il y avait une séquence assez douloureuse où une jeune femme, Noël Châtelet, réapprend à un vieil homme l'amour de la vie, etc. Et il lui fait faire... c'est un père qui ne comprend pas pourquoi son fils s'est suicidé. Elle est touchée par la blessure de ce père. Elle lui réapprend à faire l'amour, si j'ose dire, comme un dernier cadeau avant qu'il meure. Et cette séquence était douloureuse. Les gens claquaient le soir leur fauteuil et partait en hurlant. Et lorsque Hugo Santiago, le réalisateur, est sorti, eh ben, les gens traitaient de pute, de prostituée, Noël Châtelet, et Hugo, qui lui tenait la main, lui disait « Je t'interdis de pleurer ». Voilà.
Voilà. Et après, grand débat critique, effectivement. Mais parfois, les critiques ne touchent pas forcément les films, mais aussi les présidents. Jean-Pierre Lavoignard, on passe à 77. Est-ce que Roberto Rossellini serait une victime collatérale de Cannes ?
Peut-être.
Président du jury peut-être. Cette année-là. Qu'est-ce qui s'est passé en 77?
Il est président du jury cette année-là. Il y a pas mal de films. Il y a notamment Une journée particulière de Scola qui fait à peu près l'unanimité et des festivaliers et d'une grande partie de la critique. Et le jury présidé par Rossellini, qui avait demandé en plus, en acceptant le rôle de président du jury, qu'il y ait un colloque qui se tienne tout au long du Festival de Cannes, tous les jours, sur les responsabilités du cinéaste face à son outil, si j'ose dire. Donc c'était un festival sérieux quand même. Et le président du jury a décerné la Palme d'Or à Padre Padrone des frères Taviani. Mmh. Donc là, il y a eu une espèce de tollé général, surtout de la part du président Favre Lebré, qui lui était un fou absolu de Sophia Loren et qui comprenait pas que une journée particulière n'ait rien eu, et elle non plus. Et je crois qu'il est même pas venu à la cérémonie de clôture.
Ouais.
Et Rossellini a été apparemment très affecté par l'espèce de bronca qu'il y a eu et de critiques dans la presse, tout ça. Et il est mort d'une crise cardiaque quelques jours après la fin du festival, en train d'écrire une lettre justifiant son palmarès.
Pierre-Henri Delot, vous vouliez quelque chose.
Il faut préciser que le règlement du festival spécifiait que le président ou le délégué du festival avait le droit d'assister aux délibérations du jury.
Oui.
Et quand Fabre Lebré s'est rendu à la délibération du jury, à l'endroit où il était prévu qu'il soit, ils n'étaient pas là. Il les a cherchés et finalement il les a retrouvés dans la suite de Roberto Rossellini. Il avait convoqué son jury, et quand il les a enfin trouvés, Rossellini a ouvert la porte en disant « c'est Padre Padrone ». Alors évidemment, ça ne l'a pas arrangé.
Et en plus, cette année-là, il y a des prix qu'il n'avait pas remis. Et donc les responsables du festival ont changé le règlement en disant que tous les prix devaient être attribués obligatoirement.
Autre palme contestée, bien sûr, c'est celle de Piala, « Sous le soleil de Satan ». Voilà, c'était Montand qui remettait cette palme et Catherine Deneuve.
Oui, la courageuse voix, c'est celle de Catherine Deneuve, qui une fois de plus monte au créneau quand il faut.
Vous y étiez tous les deux cette année-là.
Oui. Bon, il faut dire aussi que depuis, on met plus des micros d'ambiance, donc quand un film est sifflé à la remise des prix, on l'entend pas à la télévision.
Ah bon? C'est vrai?
C'est trop directionnel.
J'avais pas remarqué ça.
Et vous, à l'époque, vous étiez pour Studio.
Oui.
Et vous avez fait un reportage autour de lui, j'imagine.
Oui, mais surtout, ce qui était amusant, c'est que pour la première fois, en tout cas, autant que je me souvienne, j'avais eu l'accord d'Yves Montand et de Gilles Jacob de suivre Montand au jour le jour. Et donc, on avait suivi tout. Mais il n'avait pas le droit de parler des délibérations. Il était censé ne pas donner son avis sur les films. Ce qui était rigolo, c'est qu'il me testait. C'est-à-dire, il me disait, mais vous, les petits, là, vous avez aimé quoi? Et lui, c'est sûr qu'il avait adoré Les Yeux Noirs et que il s'est fait convaincre que Piala, c'était bien. Je pense pas que c'était sa palme du cœur à lui. Mais en tout cas, il a assumé jusqu'au dernier moment. Et Piala, on voit bien qu'il réagit, comme il dit, il est fidèle à sa réputation. Il est blessé quand même. Alors après, il y a toute la discussion de est-ce que c'est un bras d'honneur ou est-ce que c'est une sorte de salut. Donc on peut l'interpréter un peu comme on veut. Mais comme le disait Laurent, je trouve Catherine Deneuve... impeccable, c'est-à-dire elle est sur scène et c'est elle qui demande le silence. C'est alors qu'elle n'est pas membre du jury, rien. Elle est juste entre guillemets la présentatrice de la soirée. Je trouve que c'est courageux, c'est bien.
Autre polémique aussi par rapport à ce jury, je ne sais pas si vous y croyez, est-ce qu'on y croit ou pas cette histoire de Sagan qui aurait dit qu'il y a eu des pressions au jury, elle voulait donner la Palme d'Or au Tambour, le jury, enfin le des pressions extérieures à Apocalypse Now, et elle a réagi en disant si c'est pas le Tambour, je quitte le palmarès et je raconte tout.
Et ils ont été Palme d'Or ex aequo.
Oui.
Oui. Après, ça dépend de ce qu'on appelle des pressions. Je ne sais pas où commence et où finit la pression. C'est si le producteur la voit et lui dit ça serait vraiment bien et je vous paierai des vacances. Ça, franchement, je ne sais pas puisqu'elle n'a pas raconté les pressions. Donc je ne sais pas, à moins que Pierre-Henri.
Non, la pression venait de la direction du festival parce que Fabre-Leroy avait quasiment
promis
la Palme d'Or à Apocalypse Now. Et ça, François Sagan, qui est d'ailleurs parti sans payer ses extras.
Allez, ça c'est fait. Ouais.
Du coup, par rage, s'est retrouvé avec une palme d'or et ex aequo.
Ouais. Voilà.
Bah, le problème, c'est qu'on puisse préférer le Tambour à Apocalypse en même temps. Hein.
Oui, c'est ce que j'allais dire. L'histoire
a tranché de ce point de vue-là.
L'un des dieux a raison.
S'il y a eu des pressions, l'histoire a donné raison aux pressions. Ouais. Donc, ça ne les justifie pas pour autant. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
C'est pour ça que la quinzaine, c'est bien par rapport à ça. Il n'y a pas de compétition. Il y a des prix, certes, mais il n'y a pas cette
compétition. Il n'y a pas de prix du tout, même.
Il y a des prix extérieurs, oui, quoi,
ça
CD, etc.
On peut pas empêcher les gens de donner des prix.
Non. Mais il n'y a pas cette pression énorme, quoi.
Non. On n'a jamais voulu faire ça. Parce que ça aurait pas été bien que des réalisateurs, quinzaine de réalisateurs quand même, donnent des prix à des collègues, quoi. Donc, moi, j'ai jamais voulu.
Des scandales à la quinzaine, sinon en dehors de ça, des...
Non, parce qu'il y a une différence énorme, c'est que le public de la quinzaine, c'est ce que disait...
Attends ça, mais il y a quand même eu des points d'humeur, d'auteur ou de...
Oui, si vous voulez. Le plus gros scandale qu'il y a eu à la quinzaine, c'est le jour où j'ai pris Texas Chainsaw Massacre. Les gens étaient tellement surpris par ce film-là, et surtout il était très violent, faut pas l'oublier à l'époque, enfin, du coup, qui sont venus me dire que c'est pas un film quinzaine.
Ouais.
Alors comme moi, j'ai dirigé la quinzaine 30 ans, j'ai jamais su ce que c'était un film quinzaine. J'ai dit, expliquez-moi le truc, parce que je comprends pas. Mais sinon, non, il y a eu des choses rigolotes. Je me souviens d'être rentré dans une salle, et je voyais des ombres chinoises sur l'écran d'un film japonais. Je me dis quand même, c'est pas le film que j'ai pris. Effectivement, sur la dernière rangée des fauteuils du Star, il y avait un type de vœux qui était monté sur le fauteuil et qui faisait des ombres chinoises avec ses petits doigts devant la fenêtre de projection. Il l'a attrapé par la peau des fesses en lui disant, mais ça va pas la tête. Et j'ai découvert le metteur en scène, Terayama, qui m'a dit, c'est beaucoup plus joli comme ça. Alors, bon, d'accord. Le point où on en est.
C'est très mignon et on n'a pas des histoires si mignonnes en compétition officielle. Il y a une année aussi qui a créé scandale par rapport à ce palmarès, c'est 1999. David Cronenberg, président du jury, qui remet des prix à L'Humanité de Bruno Dumont et à Rosetta des Frères Dardenne, Palme d'Or. Et on écoute le reportage à l'époque.
Rosetta de Luc et Jean-Pierre Dardenne.
Une Palme d'Or inattendue s'il en est, la première en tout cas pour la Belgique. Loin des strass et des paillettes, le jury du 52e festival a couronné un film âpre, un drame social proche du documentaire.
Je vais essayer d'être aussi simple que le film qu'on a essayé de faire. Et je vous remercie beaucoup d'avoir aimé Rosetta.
Rosetta qui vaut également à sa comédienne Émilie Dequen le prix d'interprétation féminine.
C'est difficile, pardon. Je reprends mon souffle une seconde. Là déjà, je voudrais embrasser ma famille qui doit certainement voir à la télévision.
Un prix décerné ex aequo à une autre comédienne non professionnelle, Séverine Canel, interprète du second triomphateur de la soirée, L'Humanité de Bruno Dumont, également grand prix du jury et dont le comédien Emmanuel Chotet obtient le prix d'interprétation masculine.
Ce qui est important, c'est que ce cinéma-là existe encore, cette espèce de folie qui font que les cinéastes sont des hommes qui marchent devant les publics et pas derrière, et qui inventent des mondes et qui tendent les mains aux spectateurs.
Ben moi, c'est le palmarès le plus absurde que j'ai vu à Cannes. Je ne comprends rien. En fait, on avait tout dans nos prédictions, mais et pour cause, parce que vraiment, je crois que le jury s'est complètement gouré. Il me semble que c'est un cauchemar à la Cronenberg.
Je suis très consterné, même. Surtout pour les comédiens.
Je pense pas que dans les films qui ont été primés, il y en a qui vont vraiment sortir les gens de chez eux pour leur donner envie d'aller au cinéma.
Laurent, cette comédienne primée.
Oui, Séverine Canel.
Et on va la retrouver.
Et ben, cette année, en 2017, au Festival de Cannes, dans le Rodin de Jacques Doyon. Comme quoi, finalement, il y a quand même une continuité.
Qu'est-ce qu'on reproche à ces acteurs-là, Jean-Pierre Labagnard?
N'exagérons pas. Moi, je reproche rien aux acteurs en particulier. Non. Je sais qu'à l'époque, j'avais été assez virulent. Je m'attendais à ce que vous retrouviez le son. Donc, j'avais été interviewé à la sortie du Palmarès par Canal, je crois, et où j'avais manifesté ma déception. Ce que je trouvais dans ce palmarès, c'est que je le trouvais, alors pour certains c'est une qualité, pour moi c'était un défaut, je le trouvais extrêmement trop cohérent. C'est-à-dire que tout d'un coup on ne récompensait qu'un type de cinéma, qu'un type de démarche artistique, et je trouve que ce qui fait la force de Cannes, et ce qui fait que Cannes est Cannes 70 ans après, c'est la diversité. C'est qu'on peut avoir, et ça grâce aussi à la Quinzaine, et je dis pas ça juste parce que Pierre-Henri est là, mais la Quinzaine a aiguillé le festival officiel. C'est-à-dire, ils allaient piquer les cinéastes découverts par la Quinzaine, qui après passaient en compétition officielle. Mais cette année-là, il y avait quand même Tout sur ma mère d'Almodovar. Il y avait Ghost Dog de Jim Jarmusch. Il y avait Un été de Kikou Jiro de Kitano. Ouais. Et Une histoire vraie de Lynch. Franchement, donner 4 prix.
Ouais, c'est un
4
peu trop.
Prix. Et enfin, 2 à l'humanité, 2 à Rosetta, je trouvais que c'était injuste.
Voilà. Aujourd'hui, ce serait plus possible parce que on ne peut plus donner 2 prix même film. C'est-à-dire interprétation, c'est interprétation ou grand prix, mais pas les deux en même temps. Donc c'est peut-être à partir de là, d'ailleurs,
je crois que c'est à partir de là que ça a commencé à changer.
Jean-Pierre Lavoyen l'évoquait, mais est-ce que la Quinzaine est encore un révélateur, à votre avis?
Moi, je pense que ça peut arriver. Moi, je ne suis pas les films de la Quinzaine. Puisque j'ai quitté quand même il y a presque 19 ans maintenant.
Vous êtes quand même celui qui est resté le plus longtemps. C'est vous, l'âme de cette Quinzaine. Vous êtes resté 30 ans. Les délégués suivants sont restés très peu d'années. C'est vous qui avez forgé l'esprit Quinzaine.
Oui, mais c'est le Weintraub qui est le délégué actuel de la Quinzaine. C'est le 5e délégué qui m'a succédé. Moi, j'ai l'impression qu'il a fait quelques découvertes depuis qu'il est là, 4-5 ans.
Vrai.
Et il y a eu aussi une bonne pioche quelquefois par Olivier Père. Donc, maintenant, je ne suis pas ça du tout.
Non, puis la configuration même du festival a changé. Justement, le festival officiel, les sélectionneurs officiels ont tiré les leçons de la Quinzaine.
Avec des films de genre à minuit.
Ils sont aujourd'hui sans doute plus curieux, plus libres. Et puis, ils aiment un cinéma, je pense qu'ils aiment un cinéma plus varié, justement. Ils aiment le cinéma de genre, tout ça. Ce qui n'était pas le cas à l'époque de Maurice Bessier, de Favre Lebré.
Ça vous dit quelque chose, ce son?
C'est
qui le Ténia?
Des questions du Ténia, dans une boîte de nuit.
C'est irréversible.
Oui.
Bravo Jean-Pierre.
Bravo Jean-Pierre. Irréversible, 2002, un grand scandale de Cannes, Gaspard Noé, qui attendait, je me souviens, parce que je l'ai vu à la porte, attendait. En fait, il avait envie de ce scandale.
Il avait envie du scandale, oui. Il avait envie du scandale. Mais pour en avoir parlé avec Monica Bellucci et Cassel, c'était quand même plus dur à vivre pour eux, qui je pense, n'avaient pas la démarche provocatrice. Enfin, ils savaient le film qu'ils avaient fait. Mais la violence, on sous-estime un peu la violence des réactions. Monica Vitti, 30 ans après La Ventura, où elle était sortie en larmes. Là, Antonioni ne lui avait pas dit à elle de ne pas pleurer. Donc, elle était sortie en larmes. 30 ans après, elle revenait à Cannes et elle disait que ça avait été une sorte de traumatisme tellement elle avait été surprise par la violence de la réaction et la manifestation de haine, que ça. Et alors, toute proportion gardée, ils sont plus armés aujourd'hui, ils savaient le film qu'ils avaient fait et ça faisait partie aussi de la démarche de ce film-là, de le présenter à minuit, mais ça n'empêche que les réactions ont été très très violentes. Je suis pas sûr qu'on leur ait craché dessus comme on l'a fait sur Mastroianni et Ferreri au moment de La Grande Bouffe, mais je sais que Monica m'a dit qu'elle avait eu des cris d'injures, des vraies insultes.
Autour de cette scène de viol dont on parle encore, Pierre-Henri Delot.
Oui, faut dire que la compétition officielle, il y a trois projections normalement. C'est-à-dire il y a une projection pour les journalistes, une projection ensuite moitié journaliste, moitié un peu public, presque cinéphile, et enfin la projection en habit de soirée. Et souvent, il peut y avoir trois accueils différents.
Absolument, bien sûr.
En fonction soit que la critique est aimée, le soir, c'est au contraire sifflé, ou l'inverse, c'est-à-dire. Bon. Et donc, où est la vérité de l'accueil entre les deux? On ne sait pas. Tandis que les réceptions des films à la quinzaine, c'est un public qui est prêt à être surpris, donc elles sont égales. Si elle est mauvaise, la réception, la première projection, elle sera mauvaise aussi à la troisième.
C'est vrai.
Donc voilà.
Mais par exemple, Luc Besson qui dit « Mon film a été assassiné à Cannes » en parlant du
Le Grand Bleu.
En fait, c'est vrai pour la réaction de la projection de presse.
Moi,
du matin,
j'étais, hein. J'étais.
Là, ouais, la réaction est très virulente.
Mais pas le soir.
Le soir, c'est une réaction triomphale,
public,
quasiment.
Oui.
La même chose pour les films de Lelouch. Hein. La projection de presse était démolie à Cannes après. Bien après, évidemment, Un homme et une femme. Mmh. Et le soir, c'était toujours un triomphe.
Un triomphe, bien sûr. Voilà.
Cannes, cette année, aura lieu du 17 au 28 mai. Ça sera j'espère qu'il y aura plein de scandales. Ce sera la 70e édition. Vous restez avec nous. On se retrouve après Lana Del Rey pour parler des sorties.
Look at you kids with your vintage music, coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. You get ready, you get all dressed up to go nowhere in particular. Back to work or the coffee shop, doesn't matter, 'cause it's enough to be
Laurent, que s'est-il passé mercredi qui arrive sur le podium des plus gros scores, quoi?
Eh bien oui, eh bien en tête, c'est un film français de Dominique Farrugia qui s'appelle Sous le même toit, suivi d'un film d'anticipation, Life, origine inconnue, et puis le film d'Emmanuel Courcol, Cessez-le-feu.
Et bien on va commencer avec lui, Cessez-le-feu, donc voilà. Premier film au sujet ambitieux. 1923, Georges, héros de 14, c'est Romain Duris, fuyant son passé, mène depuis 4 ans une vie nomade et aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France où il y retrouve sa mère et surtout son frère Marcel, incarné par Grégory Gadebois, lequel, invalide de guerre, est muré dans le silence. Il fait aussi la rencontre d'Hélène. C'est Céline Salette, professeure de langue de signes, alors qu'il noue avec elle une relation tourmentée. Les années folles, thème finalement peu traité au cinéma. On attend d'ailleurs celui de Téchiné et de Dupontel, Au revoir là-haut. Bref, la guerre et ses traumas inscrits dans ces trois personnages et dans une histoire riche, trop riche, c'est le défaut des premiers films, avec des récits et des pistes auxquelles on a du mal à s'attacher. Les tranchées, l'Afrique, le retour, serait-ce dû à une réalisation trop sage, Laurent, un manque de souffle sans doute, même si les trois acteurs y croient, surtout Romain Duris, à la fois viril et fragile, dont on découvre de film en film toutes les nuances du jeu.
Oui, c'est quand même une impression un peu étrange. On a l'impression d'un film qualité France, vous savez, ce qu'on appelait avant. Alors tout est bien fait. Il y a quand même trois films fantômes français derrière et qui sont peut-être loin devant. C'est La Chambre verte, La Chambre des officiers et La vie et rien d'autre. Mmh. Moi, j'ai vraiment vu des réminiscences, notamment la scène de fin, La vie et rien d'autre. On a l'impression de la revivre. Enfin, bon, alors tout ça fait des belles références. Et le problème d'Emmanuel Courcol, c'est effectivement de ne pas instiller ce qui se trouve dans ces trois films-là. C'est-à-dire la fièvre, le mystère, presque la déraison et de la situation et de l'époque. Et du coup, effectivement, ça fait une sorte de chromo finalement assez joli, là où on aurait envie de grandes passions.
11 minutes marque le retour d'un cinéaste grand et intrigant, le Polonais Jerzy Skolimowski. Pour le remettre en tête, Skolimowski, c'est l'auteur notamment de Deep End, oui. Travail au noir, Le bateau phare. Ça, c'était avant, une longue absence et un retour éclatant en 2010 avec Essential Killing. Voici donc ce deuxième retour, 11 minutes, 11 moments de vie, 11 destins qui vont basculer, et notamment un mari jaloux, une actrice sexy, un dealer, un laveur de vitres et des auxiliaires médicaux. Bref, un exercice de style virtuose, Laurent. Vaniteux et au bout du chemin un peu vain.
Ah oui, parce que c'est une caméra énervée et énervante, hein, avec des tics et des tocs cinématographiques incroyables. Tout ça est très très lourd, avec un avion régulièrement qu'on revoit frôler une tour, au cas où on n'aurait pas compris que le film est moderne, entre guillemets. Mais quelle modernité! C'est tout à l'épate, il n'y a pas fondamentalement de surprise. Et effectivement, vous le disiez, je pense que le problème, c'est que comme le spectateur n'a pas sa place dans ce film, il est totalement entouré d'images et pressuré de sons, ben ça finit par être vide et vain.
Les initiés de John Trengove, Afrique du Sud, montagne du Cap Oriental, comme tous les ans, Xolani, ouvrier solitaire, participe avec d'autres hommes de sa communauté aux cérémonies rituelles d'initiation d'une dizaine d'adolescents. Ils y sont circoncis et initiés pour revenir chez eux en adultes. Autour de ce rite violent et machiste, la description d'un sujet absolument tabou là-bas, l'homosexualité cachée de deux formateurs, passion cachée parce que terriblement réprimée. Cette association entre tribal et tabou qui fait l'originalité de ce film. Dommage que la mise en scène lente et presque contemplative en atténue l'impact sans en restituer vraiment les enjeux.
Ah mais on s'ennuie. Après ce que vous venez de dire, on s'ennuie. C'est un problème quand même. Ouais. Vous venez de dresser un tableau incroyable, effectivement, de ce que montre le film, de ce qu'il dit, des tabous, l'homosexualité, la circoncision des hommes, etc. Et on s'ennuie à s'en foutre l'heure. C'est quand même sidérant et paradoxal.
Wedding Doll, un premier film israélien signé Nitzan Giladi. Autour de Hagit, une jeune femme fragile qui vit avec sa mère Sarah. Elle travaille dans une usine de papier et toilettes et tente de gagner son indépendance. Sarah, elle, est déchirée entre son désir de la protéger et sa propre volonté de vie de femme. Hagit, c'est la folle, comme on l'appelle dans son quartier, incarnée par une actrice lumineuse, toute jeune, elle s'appelle Moran Rosenblatt.
Ah oui, c'est l'atout pas unique du film, mais vraiment il faut citer effectivement cette jeune actrice parce qu'elle est remarquable dans un rôle qui est vraiment pas facile. C'est-à-dire que, alors moi j'ai pas d'indication sur sa pathologie, mais enfin disons elle a un petit arriéré mental quand même relativement important à 24 ans. Voilà, elle est pas du tout autonome, etc. Et en même temps elle est pas, c'est pas une débile. Donc c'est un portrait très très sensible quand même de cette jeune femme et qui se passe dans des lieux extrêmement bien filmés. On sent que le passé de documentariste du réalisateur est tout à fait présent à l'image.
Oui, vraiment. Au bord du désert du Negev.
Mais oui, exactement, c'est magnifique.
Glory de Kristina Grozeva et Petar Valkanov, c'est des nouvelles d'un cinéma très absent sur la carte, la Bulgarie, dont la dernière belle surprise date, selon moi, de 2010 avec Eastern Plays. Celui-là est moins poétique et plus politique, c'est une fable caustique autour d'un cantonnier d'une cinquantaine d'années qui trouve des billets de banque sur une voie ferrée, ne les prend pas pour lui, les rend à l'État. S'ensuit une cérémonie pour le remercier. Cérémonie au cours de laquelle on lui offre une montre en lui subtilisant celle qu'il avait au poignet. Cette nouvelle montre ne marche pas. Il va passer tout le reste du film à essayer de récupérer cette vieille montre. C'est une fable absurde sur la politique et ses compromis.
Oui, ben on a envie de dire sort de ce corps cinéma roumain. C'est-à-dire que, ben alors c'est un film bulgare, donc c'est pas très très loin non plus. Mais en même temps, on aimerait bien un vrai film, enfin une Bulgarie qui s'affirme. Ben là vraiment, on a une Roumanie sous-jacente avec effectivement tout ça. C'est-à-dire que la lutte des classes, le fait que le cantonnier naïf, il est la proie d'une chargée de communication absolument abominable.
Il est bègue en plus.
Il est bègue. Alors le côté bègue, alors là, franchement, oui, quoi, merci bien. Bon, hein. Ouais. Oui, ça allonge le film inutilement. Donc effectivement, tout ça est bien dommage parce qu'il y a les qualités. Mais la prochaine fois, on aimerait un film bulgare à 100%.
Voilà, ça s'appelait Glory. Nostos de Sandrine Dumas, l'actrice. Alors, c'est un doc à partir d'une toile de Talia Flora Carivia. Sandrine Dumas suit les traces de l'artiste et dont l'histoire se mêle à sa propre histoire. C'est un peu compliqué.
Non, c'est simple. Elle découvre un tableau. À la mort de sa mère, elle découvre que sa mère a collectionné un certain nombre de tableaux de cet artiste grec, très très beau tableau, très féminin. Et elle tisse sa toile ensuite de nostalgie, nostos, la douleur du retour, mais qui peut être aussi une belle douleur, une douleur apaisante. Et c'est le cas. Et dans ce beau travail de déconstruction, de reconstruction du tableau familial, du passé familial, qui passe bizarrement par Ithaque, où il y a eu un grand tremblement de terre et la famille a fui Ithaque à ce moment-là. Ithaque, c'est pas n'importe quoi, c'est une île référencée. Et vraiment, je trouve que Sandrine Dumas se tire très très bien de cet exercice mémoriel et familial. C'est assez joliment fait.
Ressorti de deux films assez étonnants qui ont marqué l'histoire du cinéma, c'est L'amour existe de Piala et La douceur du village de Reichenbach.
Oui, leur chercher une intrus quand même, faire cohabiter les deux, j'ai quand même quelques problèmes. C'est-à-dire que c'est antinomique. C'est-à-dire Piala est en noir et blanc, Reichenbach est en couleur. Reichenbach, c'est Michel Legrand, Piala, c'est Georges Delerue. Et Piala, Piala domine parce que ce portrait de la banlieue dans ces années 60 est terrible, terrible, terrible. Il dit à un moment, on va jusqu'à supprimer les fenêtres parce qu'il n'y a rien à voir sur les images. C'est quand même une phrase abominable. Voilà. Donc tout ça est de toute façon à voir. Le film de Piala est très court. On restera pour le film de Reichenbach en salle, évidemment.
Et on conclut avec un cycle Jacques Becker, les films noirs, Casque d'or, Touchez pas au Grisby et Le Trou qui est repassé récemment à la télé, qui est extraordinaire.
Et maintenant, on peut le voir en version 4K restaurée, donc c'est sublime, quoi. C'est vraiment un film, je sais pas ce qu'on pense de nos deux invités, mais c'est un film phare dans le cinéma français, véritablement. On a juste oublié de dire que Retour à Forbach de Régis Sauder vient de sortir et qu'il faut impérativement aller voir ce très très beau film.
On termine peut-être avec des cadeaux.
Mais oui, des cadeaux, des cadeaux. On a le temps. On va le prendre pour dire tout le bien. Enfin bon, c'est pas une nouveauté qu'on pense de Paris Vu par le beau film collectif Jean Doucher, Jean Roux, Jean-Daniel Pollet, Éric Rohmer, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, petit générique. C'est pour vous, Pierre-Henri Delos, ça vous rappellera certainement des souvenirs. Il vient de sortir en DVD aux éditions Montparnasse. Moi, j'ai une petite tendresse pour le film de Jean-Daniel Pollet avec Claude Melki et Micheline Dax. Ça se passe rue Saint-Denis précisément. C'est entre une prostituée et son client. Et le petit Claude Melki est touchant d'humanité. Voilà.
Donc, merci beaucoup.
Mais je vous en prie. Nous vous en prions.
Ça vous dit quelque chose, tous ces noms-là?
C'est pas seulement ça, mais en plus, j'ai co-écrit un court-métrage de fiction de Jean Doucher, dans lequel finalement j'ai joué le rôle parce qu'il trouvait pas de comédien. Et quand je changeais le texte, Doucher disait « Ne touche pas à mon texte ». Je lui dis « Mais c'est moi qui l'ai écrit, tu vois bien qu'il n'est pas bon ».
Jean Doucher, immense critique de cinéma, magnifique, regarde sur le cinéma. Donc on conseille vraiment à nos auditeurs de, de voir ou de revoir ce film.
Édité, et puis, chez,
édité aux éditions Montparnasse. D'accord. Et puis, pour vous, Jean-Pierre Lavoignard, c'est pas un DVD, mais on a choisi quelque chose d'assez original, une BD. Je ne sais pas si vous aimez les BD, mais celle-là est magnifique, certaine. S'appelle Le Coup de Prague, du duo Iman Fromental. Et figurez-vous qu'ils sont, ils sont allés sur les traces de Graham Greene dans la Vienne de 1948 et dans la Vienne, évidemment, du Troisième Homme. C'est extrêmement malin, c'est très très beau graphiquement, c'est magnifique. Mais ça, de Iman, on le sait, il avait fait un Dahlia Noir, notamment, qui était superbe. Et c'est vraiment une très très belle plongée. Alors, c'est une coédition Air Libre France Inter. On vous l'offre volontiers et on le recommande à nos auditeurs
beaucoup.
Chaudement.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à tous les deux, merci Jean-Pierre Lavoignard, merci Pierre-Henri Delot, merci à Marco Mutel pour cette belle réalisation. Le générique de fin sera projeté dans l'avenir en mai. L'une, Sandrine Kiberlin, présidera le jury de la Caméra d'Or. L'autre, Arnaud Desplechin, ouvrira le bal avec les fantômes d'Ismaël. Générique donc avec Sandrine et Arnaud.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantes a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Sandrine Kiberlin, j'y étais.
Et moi, Arnaud Desplechin, j'y étais.